présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Boréus, François lui dit, pourtant, je ne suis rien. Tu es toi, et c'est déjà beaucoup. François lui dit, moi aussi je suis heureux d'être avec toi. Tu es la seule personne qui m'aime. J'aime lorsque tu t'occupes de moi. François, Franck, veut l'être heureux. Franck veut vivre son bonheur au présent parce qu'il sent que la vie vous prend tout. Des jours passent. François est retourné dans les ruines du palais Saint-Pierre parce qu'il veut retrouver le passage et savoir s'il a rêvé ou non. Malheureusement, il ne retrouve pas le passage. Les blocs de pierre ont dû être déplacés. Il se dit que même que s'il a dû rêver, on a dû le transporter pour se retrouver sous un pont. Il a beau demander aux enfants qui étaient avec lui, ils ne se souviennent de rien. Un soir, François va chez Franck. La rue est déserte. Arrivé vers l'immeuble, il voit Franck, qu'il a vu, aller chez lui. François court à lui. Arrivé près de lui, Franck lui dit, « Il n'y a plus rien à manger. Je suis sorti pour chercher quelque chose. Tu viens ?» Avec moi? Oui. Oh. Un coup, le visage de Franck se raidit. Le trou noir au front d'où sort du sang. Franck tombe à terre. Franck! François se penche. Franck ne bouge plus. Les yeux grands ouverts. Une explosion derrière lui. C'est une voiture qui a explosé. Elle a pris feu. François serre son ami très fortement. Franck, réveille-toi, Franck, non! Il pleure, on le soulève doucement. Il ne faut pas rester ici, c'est dangereux. François se débat et crie, non, non, je reste avec lui. Et il est mort. Non, je reste avec lui. Je reste avec lui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il se débat. On entend petit à petit le bruit des émeutiers qui arrivent. Allez, viens, c'est dangereux ici. Il ne faut pas rester ici. Viens, mon petit. Tu ne peux pas rester ici. Il est mort. François se débat. L'homme le retire. La rue se remplit d'émeutiers. Des jeunes, déjà ivres, oui, déjà ivres, qui cassent et brisent les vitres des magasins. Un jeune maître habillé de noir et sale voit le cadavre de Franck et François. secours. Et les mecs, il y en a un qui est mort. Donc l'antenne court. Je me dis, on va le brûler, ce salaud. François crie. Non, non, je ne veux pas. Non. Les autres le regardent d'un air mauvais. Il y a plusieurs personnes qui se sont arrêtées. François veut leur courir, leur crier, leur courir après. Mais l'homme met la main sur la bouche et dit, ne dis rien, ne dis rien, c'est trop risqué. Tu risques d'y passer. Ne dis rien. Ne dis rien. Il maintient bien l'enfant. Les jeunes tirent le cadavre plus loin. Il vient chercher un bidon d'essence. Que certains ont pris pour mettre le feu. Ils aspergent le corps. Le corps. François est effrayé. Il ne sait plus. Un des manifestants jette une allumette sur le corps de Franck. François a vu tout tourner et s'est évanoui. Il se réveille, voit près de son visage celui de Pierre Max, qui lui sourit et lui demande « Tu vas mieux ?» François se met à crier « Franck !» Il se réveille, voit près de lui le visage de Pierre Max, qui lui sourit et lui demande « Tu vas mieux ?» François se met à crier « Franck !» Pierre Max lui dit « Franck n'est plus. Ils l'ont brûlé. Ils l'ont brûlé. » Pierre Max ne dit rien. François lui dit « Ce salaud, je l'ai !» Pierre Max lui dit « Mon pauvre petit. » François pleure et dit, c'était mon seul ami. Lui aussi m'aimait bien. Il est mort. Tout contre moi. Pierre Max lui fait, il ne faut plus y penser. Je t'ai éloigné juste avant la tuerie. François lui dit, je souhaite, c'est qu'ils sont tous morts. Il y en a beaucoup en tout cas. La police ne fait pas de quartier. Mais, tout d'un coup, il pousse un cri. Et s'évanouit. Il se réveille, faible, voit qu'il est dans sa chambre, il fait grand jour. La porte qui s'est ouverte, c'est sa mère. Elle va vers lui. Elle lui dit, qu'est-ce que tu faisais avec ce Pierre Max? C'est lui qui t'a ramené. Il paraît que tu étais dans toutes les étapes parce que ce fasciste est mort. Pauvre Nico. Tu aurais dû pleurer de joie. Ça fait un fasciste en moins. François lui dit, mais c'était Franck. Et on l'a brûlé. Ce salaud, ils l'ont brûlé. Sa mère l'a giflé et lui dit « Ne parle pas comme ça. Ce sont des héros du peuple. Et arrête de pleurer comme ça. Tu devrais avoir honte d'avoir de la peine pour un salaud. » François se redresse sur son séant et lui crie « C'est tout mon ami, et jamais !» La mère furieuse lui dit « Je ne voulais plus que tu parles à ce PD. Je t'avais dit de ne plus le voir. L'incident est clos. Il est mort. C'est une bonne chose. Comme ça, tu ne le verras plus. » François crie « Meurs !» La mère lui crie « Tais-toi. Tu n'es qu'un imbécile. Pleurer pour une merde comme ça. Toi, tu vois ce qui va faire ton père. Lui qui lutte contre ces monstres. » Et elle quitte la pièce. François déteste ses parents. Pour lui, ils ne sont plus rien que de la merde. Rien que de la merde, commet-il. Il jure qu'il se vengera et fera tout pour quitter ce milieu. Il se remet petit à petit. Son père ne lui parle plus. Il entend que son père dit à sa mère « Pas de temps à perdre avec cet imbécile. Ton fils est un imbécile, un débile. Il comprend tout de travers. Il est pire que toi que lorsque tu n'as pas bu. Tu devrais lui donner du vin, tu lui ferais du bien. Tu lui donnerais du nerf. Je me demande s'il n'est pas un peu pédé. Il passe la nuit chez Pierre Max et s'amourache d'un soldat. » Sa femme lui dit « C'est le prestige de l'uniforme. » François est furieux et se dit qu'ils sont complètement débiles. Après avoir passé 2 jours au lit, il est sorti, sans rien dire, un matin. Il est retourné sur les lieux de la tuerie. Il ne reste plus rien, aucune trace, même pas des cendres de Franck. Il est retourné dans l'appartement qu'il occupait avec Franck. Il est resté tel. François regarde tristement. Il cherche des choses qui lui rappellent Franck. Voit sur le lavabo un morceau de son rasoir, une lampe, un blaireau, savon à barbe, son nécessaire pour se raser. Il touche, le sang, c'est propre, ça sent le savon propre, un gant, une serviette. Prends la serviette et mets demain dedans les choses. Les pièces, il les regarde. Il regarde la pièce où il dormait, sur le matelas. Il y a une couverture beige, sur une chaise une chemise blanche. Il met la chemise et s'en enroule. Il se met dans les couvertures. Il passe la journée allongé, enveloppé dans la couverture. Il semble reconnaître l'odeur de Franck. S'endort, enivré, ne rêve pas. Puis il se réveille. Il fait nuit dans cette pièce vide. Ça lui fait un drôle d'effet. Il décide de s'en aller avec les affaires. On ne sait jamais s'il ne peut plus rentrer dans la pièce. Il emporte même la couverture. La chemise, il la garde sur lui. Empile le tout dans sa chambre. Et il cache sous son matelas. Sa mère ne fait jamais le ménage. Ni lui, chez ses parents. On ne parle plus de ce qui s'est passé. Le lendemain, il est retourné dans l'appartement et il y a passé la journée. Le soir, du lendemain, il n'a plus pu rentrer dans l'immeuble. La porte était fermée. Il y avait un écriteau de permis de démolition, franc blanc. Ça lui fait mal. Et pour la première fois, il se met à détester la franc blanc, mais en se disant aussi qu'elle a raison. Il dit qu'elle a raison parce qu'elle est contre son père. Il se met du côté de tous ceux qui sont contre son père parce que son père était du côté de ceux qui ont tué Franck. Les jours passent. Il voit que le temps a passé, qu'une page a été tournée. Il passe son temps dans les rues, ne parle à personne. Les gens qui le croisent lui sourient, il a l'air tellement mignon. On cherche à le caresser, lui donner un baiser. Seuls ses parents ne font pas attention à lui. Il reste depuis plus longtemps dehors. Une nuit, il est tard. Comme il fait chaud, il est allé jusqu'aux hauteurs de Fourvière. Il monte une petite rue étroite, peu allumée, faite de petites propriétés, entourées de murs, où dépassent des branches d'arbres. La rue est pavée. Il y a une rigole au milieu de la rue. François, maintenant, aime le calme. De toute la journée, il n'a pas mangé. Demander aux gens, leur parler, les séduire, ça ne lui dit plus rien. Il est encore sous le choc de la mort de son ami. Il entend tout à coup, en marchant, un bruit sourd, un bruit désagréable. Le bruit s'amplifie, il distingue mieux. Il roule au ralenti. François se tient sur ses gardes. Qu'est-ce que ça peut bien être? La rue est trop petite. Il continue à monter. Il entend le bruit, c'est un camion qui s'arrête, les portes qui ont claqué. Il se retourne et voit. Vite! Un camion en bas de la rue, arrêté au travers de la rue pour la fermer. Un camion, puis deux. En sorte, des hommes habillés de noir. Mitraillette à la main. Il court vers lui. François dit « Merde !» Il se met à courir. Il sent qu'ils sont tout près. Il sait qu'il risque beaucoup. Les hommes montent en courant. Ils ne tirent pas. C'est peut-être qu'ils le veulent le prendre vivant. François court le plus vite qu'il peut. Mais il sent que les hommes se rapprochent. Il entend leurs pas sur le pavé. La rue tourne. Elle est plus sombre. Les hommes n'ont pas tourné la rue. Ils ne peuvent le voir. Vite. Il sait que s'il continue à courir dans la rue, il sera pris. Alors il décide de se cacher. Vite, puisque les autres approchent. Il voit un arbre. Sur une branche qui dépasse et va dans une propriété. Vite, il grimpe à l'arbre. Heureusement, qui sait faire. Un gosse qui traîne dans les rues sait tout faire. Et hop, il est sur la branche. Il la suit en faisant tout de même attention parce qu'elle peut plier. Essoufflé, apeuré, sans chercher à voir si c'est bas ou où il va tomber, il saute à terre. En sautant, il entend les hommes qui arrivent. Il est tombé en se faisant. Pas trop mal, il est tombé dans l'herbe. Essoufflé, n'ose pas trop bouger. Il entend les hommes qui courent. Où est-il passé? Je crois l'avoir vu sauter de cette branche. Nous allons sonner. François dit, merde, ils vont trouver dans le jardin. On a sonné au portail. Merde! Ils vont trouver dans le jardin. Merde! François, vite! Longe le mur, court vers la maison. Il fait vite. Voit qu'au rez-de-chaussée, une fenêtre. Les volets sont restés ouverts. Vite! Il prend une pierre. Et... sans savoir si ça fait du bruit, il brise la vitre. puis, il saute dans la pièce et n'ose plus bouger. Il entend des pas. Une porte qui s'ouvre. Il n'ose pas bouger. Des pas dans le parc. Le portail qui s'est ouvert. Oui. Il y a une personne qui s'est introduite dans votre parc, monsieur. Nous aimerions c'est le visiter. Cette personne peut être dangereuse. Vous avez un papier de perquisition? Non, nous sommes de la ronde. Alors je ne peux pas vous laisser entrer. Mais cette personne peut être dangereuse, monsieur. Au revoir, monsieur. Des pas, l'homme s'en retourne. Les hommes noirs ne sont pas éloignés de la propriété. La porte de la maison qui s'ouvre et qui se ferme. Des pas. François fait un pas vers la fenêtre. Et là, il cogne quelque chose qui a fait tomber à terre. Ça fait un bruit. La porte s'ouvre. Lumière. Qu'est-ce que c'est? François sursaute. Il n'a pas le temps d'aller à la fenêtre. L'homme se met entre lui et la fenêtre. Se sent perdu. Monsieur, je vous en prie, laissez-moi partir. Le mec grand, maigre, tête osseuse, cheveux grisonnants, grands yeux bleus, porte une robe de chambre, en soie en bordeaux, sur un pyjama marine. Il demande, qui es-tu? François lui répond, rien. Qu'est-ce que tu fais ici?
Rien, monsieur. Je me cachais.
Pourquoi?
Parce que je suis poursuivi.
Et pourquoi on te poursuit?
François lui dit, je vous en supplie, monsieur, laissez-moi partir. Parce que je suis poursuivi.
Il n'a rien fait. Et pourquoi es-tu poursuivi?
J'ai rien fait. J'étais à marcher, ils sont venus vers moi.
Que faisais-tu si tard dehors? Que faisais-tu si tard dehors? Réponds. On sonne au portail. François lui dit.
Laissez-moi partir, monsieur, je vous en prie. Je vous en prie.
L'homme réfléchit et lui dit. Je suis un imbécile. J'ai passé, perdu du temps à te poser des questions pour rien. Je suis obligé d'aller ouvrir maintenant. Viens.
Sorte de la pièce. En vitesse. L'homme ouvre une armoire et le pousse dedans. Ferme la porte à clé. Et il sort de la maison.
François se dit qu'il va peut-être le livrer. Peut-être, oui, le livrer.
Entendu le bruit du portail qui s'est ouvert.
Oui.
Pouvons-nous visiter votre maison? Nous sommes sûrs qu'il est caché ici.
L'homme leur dit,
non, et puis il est tard. Il n'y a personne chez moi. Bonne nuit, messieurs.
Mais le bruit que nous avons entendu,
oh, ce bruit, ce n'est rien. C'est moi qui ai fait tomber des objets qui étaient sur une table. Bonne nuit.
Le portail qui s'est refermé.
Le portail qui s'est refermé. Des pas qui vont jusqu'à la maison.
La porte de la maison qui s'est ouverte. La porte de l'armoire qui s'ouvre enfin.
Tu peux sortir.
Merci, monsieur.
Mais tu ne peux pas partir, parce qu'il ne doit pas être loin. Tu dois rester la nuit ici.
François lui fait,
merci, tes parents vont passer à côté.
Moi j'ai l'habitude que je passe la nuit dehors.
L'homme soupire et dit, viens, je vais te mener à une chambre.
François le suit. La maison n'est pas bien éclairée. Il n'y a que des appliques qui éclairent. Il lui dit, j'allume pas trop, je veux pas qu'on nous espionne. Il monte les escaliers de bois. Au premier étage, longe un couloir très sombre. L'homme ouvre une porte, c'est une chambre, grande chambre. Avec un lit à deux places, les meubles sont 19e. Il lui dit,
voilà la chambre. Déshabille-toi et couche-toi. Demain, je viendrai te chercher. Bonne nuit.
Et l'homme sort de la pièce.
François se déshabille. Dépose ses vêtements à terre. Parce qu'ils sont sales et déchirés. Se regarde, ce n'est pas trop sale. Ça peut aller à part les pieds. Je me demande s'il ne doit pas se coucher par terre, car il risque de tacher les draps ou de coucher avec ses chaussettes, mais ses chaussettes sont aussi sales. Alors, il s'assoit sur le rebord du lit et, avec un mouchoir, il essaye d'enlever le plus de saleté qu'il peut de ses pieds. Puis, lorsqu'il trouve que c'est suffisant, il se couche. Les draps sont propres et un peu rêches. Le matelas est mou, ça l'empêche de se détendre. Et puis, il fait trop chaud. Chez lui, il dort la fenêtre ouverte. Et son lit est un tas de vieux vêtements. Il se dit
qui doit apprendre à vivre dans du luxe parce qu'il veut, s'il veut réussir, et vivre avec dans le groupe Franc-Blanc. S'il veut vivre près de Franc-Blanc, il doit s'habituer au luxe. Il réussit à s'endormir. Le calme, la fatigue l'y aide. Puis, il se réveille dans un décor qu'il ne connaît pas. Cette clarté, ces meubles, cette odeur de cire et de lavande. Il se souvient du coup ce qui lui est arrivé. Et le vieux, de ses, son corps sale, de ses draps propres. Et décide de s'habiller en vitesse. Une fois qu'il s'est habillé en vitesse, il attend. Il ne sait pas ce qu'il faut faire. Chez la vie, c'était pas la même chose. Il savait ce qu'il y avait à faire. Il savait toujours ce qu'il y avait à faire. Mais là, il va à la fenêtre et voit le haut des arbres. Les arbres cachent la vue. Il se dit que s'il le voulait, il pourrait ouvrir la fenêtre, sortir, monter sur une branche et s'en aller, mais ce serait pas bien pour le vieux. Et puis ça peut être intéressant, il y a la détriche, mais il faut tout de même faire attention, il y a des fous, même chez les riches. On frappe à la porte. Entrez. C'est le vieux monsieur, en costume gris. Il lui demande, « Bien dormi ? Oui, tu as faim ? Oui, enfin, oui. Bien, viens, nous allons prendre le petit déjeuner. » Et François le suit. Sortent de la chambre. Descendent des escaliers. Et une fois au rez-de-chaussée, le monsieur ouvre une porte. C'est un grand salon rempli de meubles, de plantes et de bibelots. Entre. Il lui montre une chaise. Assieds-toi. La chaise est en face d'une petite table basse. Qu'est-ce que tu manges d'habitude ? François lui dit, j'aime tout. Ah, je vois, tu manges ce que tu trouves. Mon pauvre petit, tes parents n'ont pas grand-chose. Et le vieux monsieur va chercher le petit déjeuner. François se dit qu'il mange et qu'après il s'en va. Il se dit que peut-être le vieux va le traiter comme une vieille folle. Comme la vieille folle. Il aimerait c'est qu'on s'occupe de lui, mais pas comme un pauvre. Ou plutôt, pas parce qu'il est un pauvre. Le vieux monsieur revient avec un plateau. Il a tout ce qu'il faut pour le petit déjeuner. Il va y déposer sur la table basse et lui dit, je n'ai pas grand chose, du café, au lait et des croissants. Ça te va ? Oui, merci. Le vieux monsieur fait le service.
tu veux beaucoup de lait?
Comme vous voulez.
Bien. Moi, je prends juste du café pur. Voilà.
Le vieux monsieur va s'asseoir en face de lui.
Ils boivent une gorgée en silence.
Tu t'appelles comment?
François Ducourt.
Très joli nom. Moi, c'est Jean Durail. C'est moins beau.
François lui demande, vous vivez seul?
Oui, et depuis toujours. Je n'ai pas fondé une famille. Et puis je ne pouvais pas.
Pourquoi?
Jean hausse les épaules et lui dit, c'est comme ça. Mon caractère. J'aurais pas su me comporter. Et puis il vaut mieux ne pas être marié que d'être incapable de rendre heureux les gens. Et puis le temps passe tellement vite.
François lui demande, vous n'auriez pas aimé avoir un enfant?
Je n'aurais peut-être pas été un bon père.
Ils ont fini de manger.
François lui dit, je crois c'est que je m'en vais vous laisser.
Jean lui dit, oui bien sûr. Ils se lèvent tous deux.
Je vais te raccompagner jusqu'à la sortie.
Sorte du salon.
Jean lui dit, je ne sais pas pourquoi je t'ai aidé. J'aurais pu te faire prendre par les autres. Peut-être. Ça aurait été mieux pour toi. Enfin, peut-être aussi que j'aurais aimé, que j'avais envie que tu restes un moment avec moi.
Et ils sortent de la maison.
Il fait soleil et doux. François lui dit, on est bien ici, on dirait qu'on est en dehors de Lyon.
Ils arrivent vers le portail.
Jean lui demande,
tu veux revenir?
François aux épaules lui dit,
oui.
Jean le regarde bien et lui dit,
tu n'es pas comme les autres.
Tu n'as pas.
Tu n'es pas fait pour la vie que tu mènes. Et si on veut te forcer à vivre cette vie, ça risque d'être dangereux.
François lui dit, mais je ne suis pas méchant.
Jean lui dit,
mais l'on peut faire du mal et avoir mal. Des fois la gentillesse peut être dangereuse. Je peux souffrir à cause de toi, et toi, à cause de moi.
François ne comprend pas, et lui dit, si vous voulez, je ne peux pas revenir.
Jean lui dit,
de toute façon, la chose est faite, il est trop tard, je souffre déjà, mais ça me regarde, alors tu peux revenir.
Thank you.
vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.